BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts pour une demi-heure de débats et de controverses avec Anaïs Voigilis, chercheuse associée au CEREJ de l'IAE de Poitiers, Ronan Lemoal, fondateur d'Épopée Gestion, un fonds d'investissement régional, et Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. On a beaucoup parlé démographie, bombe démographique et conséquences économiques dans la première partie de l'émission. Le PIB, la croissance, c'est ce qui détermine les recettes du pays aussi. C'est pour ça qu'on a créé le PIB d'ailleurs. C'est pour savoir combien on allait pouvoir prélever sur l'économie historiquement. Le think tank Avant-Gard, que je ne connaissais pas, mais think tank non partisan, estime qu'il faudrait trouver 113 milliards d'euros d'efforts d'ici 2033 uniquement pour stabiliser le niveau de la dette. Et selon ces calculs, les deux tiers de l'effort pourraient passer par les impôts. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers un nouveau ras-le-bol fiscal, Olivier Babot ?
J'ai bien peur que ce think tank ait raison. Alors, il y a des gens raisonnables, hein, si je ne me trompe pas, il y a des gens comme François Eckhall hein, dans le think tank.
Absolument, grand spécialiste qui était sur ce plateau il y a quelques jours, voilà. Xavier Jaravel, meilleur économiste, c'est vraiment pas des... Selma Mahfouz ou encore Pierre Rosanvallon, des gens plutôt sérieux.
C'est pas du tout des pignoufs et j'ai peur, même si... Dès qu'on prévoit, c'est comme disait Pierre Dac, prévoir l'avenir est difficile, surtout quand... Enfin,
non, la prévision est difficile. Les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir.
Y a plein d'hypothèses qu'on est obligé de faire sur l'évolution des taux d'intérêt, sur la croissance, probablement sur la démographie, etc. Mais je pense qu'il est assez raisonnable de dire qu'en l'état actuel, il y a un effort considérable à faire. Qu'en effet, ce n'est pas l'État lui-même qui va pouvoir amortir cet effort, car l'État, c'est pas grand-chose dans nos dépenses. L'essentiel de nos dépenses sont les dépenses sociales. Et c'est bien ce qu'a montré Jean-Pascal Beaufret. En réalité, le déficit des retraites est déjà très important. Il y a déjà une partie de nos recettes fiscales, en particulier de la TVA, qui sont orientées vers le financement de ce système. Et donc, l'avantage de ce rapport que j'ai feuilleté très rapidement, c'est qu'il explique qu'il va faire flèche, il va falloir faire flèche de tout bois. C'est-à-dire, il va falloir utiliser plein de petits moyens. Les franchises médicales, des formes de déremboursement. Sur les retraites, si je ne me trompe pas, ils disent qu'il va falloir désindexer les retraites les plus importantes, ce qui est le problème dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il dit qu'on ne va pas pouvoir baisser vraiment la dépense publique elle-même. C'est les transferts sociaux qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir travailler. Mais même là, ils disent, mais même là, ça ne suffira pas. Et c'est là que, je n'ai pas un point de désaccord, mais j'ai une question à poser. Le problème qu'on a depuis longtemps, c'est que notre système social est si lourd qu'il tue notre croissance. Et à mesure qu'il tue la croissance, on est obligé d'augmenter, pour financer le système social qu'on ne veut pas remettre en cause, d'augmenter les impôts. Si on continue à augmenter les impôts et les prélèvements, on va continuer à tuer absolument notre capacité à créer des emplois, à créer de la croissance, à créer de la valeur. Et donc, on ne fera que repousser la perspective, un peu comme celui qui a soif dans le désert voit l'oasis s'éloigner à fur et à mesure qu'il avance. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu sceptique et je pense qu'il va falloir un bing-bang plus important que ça de notre système de protection sociale. J'ai nommé évidemment maladie et retraite.
Et oui, bon, 80 ans de la Sécu, mais le bing-bang, Anaïs Voigilis, est-ce qu'il est possible ?
C'est une bonne, question. Je pense qu'il y a, un enjeu qui est en plus un peu complexe. C'est-à-dire à la fois on doit réduire un déficit, financer la transition écologique.
Et oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de dépenses qui arrivent, hein,
financer,
dans la défense, l'école, l'écologie.
Et ce qui, à mon avis, pose la question de. Parce qu'on n'est pas le seul pays à avoir un haut niveau d'endettement. La question, c'est plutôt la trajectoire et la nature de nos dépenses. C'est-à-dire que différencier ce qu'il a une dépense pour la consommation et maintenir le système d'une dépense liée à l'investissement. Enfin, ça, c'est un débat vieux comme le monde. On sait aussi que la question qu'on posait avant de la démographie ne va faire que complexifier.
Eh oui.
Cette problématique et va rendre des arbitrages difficiles parce que c'est moins d'actifs, plus de retraites, plus de dépenses de santé, etc. Et ça pose une question, c'est-à-dire que on peut en effet faire un peu des réductions un petit peu partout, se dire qu'on va aussi cibler les hausses d'impôts, supprimer certaines niches fiscales. Je suis pas convaincue que ça soit la solution de long terme. Et la solution de long terme, elle est, si on raisonnait à l'échelle d'une entreprise, ça serait de reposer complètement la question budgétaire, faire une sorte de budget base zéro en se disant qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi avons-nous besoin pour fonctionner, et ensuite reconstruire les choses petit à petit. Ça demande des arbitrages en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites et qui sont peut-être pas essentielles si on reposait la question.
Ah bah c'est la question de l'efficacité de l'euro public dépensé.
C'est le nombre d'agences qui existent, c'est l'empilage de politiques avec pas forcément une efficacité, c'est un impôt qui est pas totalement efficace non plus, c'est la question de l'assiette sur qui elle repose et autres.
Travail, capital.
Et donc, la solution, elle doit exister parce qu'il y a une multitude de rapports qui s'empilent depuis des années. Et par contre, c'est une question qui est éminemment politique et qui suppose de faire des choix et de savoir à la fin qui paye. Et dans l'élection présidentielle, on va s'amuser parce que chacun a une réponse bien différente sur où est-ce qu'il faut renier et qui il faut payer. Mais par contre, repartir d'une feuille blanche, on n'a peut-être pas encore fait cet exercice complètement.
Alors, c'est la question du cap que vous soulignez, Renan Lemoyle, en début d'émission.
Oui, moi, qu'à la marge, qu'il faille ajuster le système de protection sociale ici ou là, effectivement, on peut pas faire ça des mesurettes, mais bon, en tout cas, ça fait des choses importantes, faisons-le. Pour autant, je pense que ce qui tue, entre guillemets, une économie, et ce qui, en ce moment, parce qu'il faut bien le voir, fait que beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions, c'est l'instabilité fiscale. Au-delà du niveau de la fiscalité, c'est le système qui change toujours, la fiscalité qui est toujours revue à la hausse.
Plus dommageable, c'est ce que vous nous dites, l'instabilité est plus dommageable qu'un niveau élevé de prélèvement obligatoire auquel
je pense
le système s'est habitué.
Je pense bien poser le postulat suivant, dont on pourra dire qu'il est discutable, à savoir que chacun est prêt à payer l'impôt pour lequel il doit contribuer à la société.
Absolument.
Et à son fonctionnement.
Posons ce postulat. 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Débat, mais posons ce postulat qui, à mon avis, dans 80% des cas, au moins, est vrai. Ce qui ensuite est dérangeant, c'est qu'une politique fiscale qui bouge tout le temps, c'est une boussole qu'on n'a plus. C'est-à-dire que si on se remet sur le terrain économique, quand un acteur économique, une entreprise en l'occurrence, investit, un entrepreneur, il investit avec un cap qui tient compte de tous les paramètres autour de lui, y compris les paramètres fiscaux. Si ces paramètres fiscaux bougent tout le temps, il va d'abord être des zones dans lesquelles il investit qui vont être moins profitables que d'autres, et puis surtout, à un moment donné, il va poser le crayon. Il va dire, quand vous aurez terminé et que ce sera stabilisé une bonne fois pour toutes, et peut-être que je recommencerai à investir. Donc en fait, je pense que la fiscalité, c'est aussi un sujet de cap et de stabilité qu'on met en œuvre.
Ben oui.
Deuxièmement, je pense que ça pose aussi la question, effectivement, je ne sais pas s'il faut faire du BBZ, budget base zéro ou autre, mais je reviens à ce point-là qui est à mon avis fondamental, ça pose la question des endroits sur lesquels on doit trouver l'État et les endroits sur lesquels on doit trouver les agents économiques privés. Je pense que l'État doit revenir fondamentalement. Moi, je suis pour l'État-providence tel qu'on l'a connu dans notre pays, mais je pense qu'à un moment donné, on est tombé...
On est allé trop loin.
On est dans l'excès. La classe politique est la caricature de ça. On est dans l'anecdotique chaque jour qui passe. Imaginons, je le dis parce que ça me vient spontanément, Charles de Gaulle tenir certaines postures tenues par nos hommes politiques aujourd'hui. Ça n'existerait pas. Parce qu'il était dans un registre de la posture, mais aussi de l'action de l'État, là où on attendait l'État. Donc remettons l'État là où il doit être, ce qui déjà générera ou des sources d'économie, en tout cas de réallocation de moyens vers d'autres secteurs. Et ensuite, redonnons effectivement la latitude au secteur privé pour qu'il soit présent là où le secteur privé doit être, notamment pour financer ces grands enjeux auxquels on fait face. Et si on fait de la stabilité et qu'on remet un peu l'église au milieu du village sur ces deux sujets, on aura résolu quand même beaucoup de problèmes, je pense.
Bah oui, Valéry Giscard d'Estaing disait qu'au-delà 40% de dépenses publiques, on était dans un système socialiste. On est à 53 ou 54%
aujourd'hui. Il y a un élément qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on est en concurrence fiscale avec d'autres pays. Les mesures proposées par le rapport sont notamment, si je ne me trompe pas, une augmentation des droits de succession. On est déjà bien plus élevé que beaucoup de pays, puisqu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de droits de succession. Il faut le rappeler, tellement ça peut paraître lunaire dans un pays où on explique toujours qu'ils ne sont pas assez taxés. Et la deuxième chose, c'est que l'une des solutions, c'est d'augmenter en fait les impôts sur les entreprises, c'est-à-dire de désindexer les seuils. Et donc, en fait, ça revient à continuer à augmenter les prélèvements sur les entreprises, dont on sait très bien que, hors les fameuses pseudo-aides aux entreprises, en réalité, on est quand même, de toute façon, à un niveau supérieur par rapport aux autres. On ne peut pas charger la mule toujours plus en lui demandant de courir toujours plus vite. C'est pas possible. Et à un moment donné, il va falloir choisir et donc probablement, puisque c'est budget base zéro ou la capacité à réinventer le système, il ne se fera pas sans qu'il y ait une crise importante en réalité. Le jeu des intérêts croisés, le jeu de l'inertie, les intérêts au statu quo et aux discours alternatifs sont tellement forts que malheureusement on est très nombreux à être convaincus que rien ne se passera avant une crise majeure.
Mais elle n'arrive pas à cette crise, Olivier Babeau. Souvenez-vous du rapport Pébro sur la dette, 1 000 milliards d'euros il y a 15 ans, on tirait la sonnette d'alarme.
Jusqu'ici tout va bien.
Et puis finalement,
dit le gars qui tombe
de la tournée, non ?
Voilà, jusqu'ici tout va bien.
Bon. Anaïs, la question de la présidentielle finalement qui va se poser, on va en terminer par là un dernier tour de table, mais la réalité c'est ça va être qui va payer, c'est un peu ça le sujet,
dans tous les choix
qu'il va falloir faire.
Dans tous les mondes, c'est la question qui se pose. Hein. Sur les retraites, c'est qui paye. Sur la dépense publique, c'est qui paye. C'est la question de qui supporte le poids de notre modèle social, qui a aussi plein d'intérêts. Alors c'est vrai que j'entends qu'ailleurs, il n'y a pas la même fiscalité, il n'y a pas les mêmes contraintes, etc. Mais il n'y a pas non plus totalement les mêmes services rendus derrière. Donc il y a une question d'équilibre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut collectivement, qu'est-ce qu'on veut assumer collectivement et qu'est-ce qu'on ne juge pas nécessaire. Et c'est une vraie question de société. Bien sûr, le système de santé, il est moins lourd ailleurs, mais parce qu'on passe beaucoup par un système d'assurance privée où les mieux dotés peuvent mieux se soigner que les autres. Ce qu'on est en train de créer de manière indirecte en France, parce qu'on en est entre ceux qui peuvent contourner ou pas, donc on va avoir le pire des deux mondes.
C'est ça, sur l'école, sur la santé.
On ne peut pas dire que la France est le seul pays où les gens sont soignés, je veux dire que les autres pays, c'est pas, les gens ne meurent pas dans les cas niveaux.
Non, mais avec plus d'inégalité, les gens complètent.
Non, c'est pas du tout ce que je n'ai dit.
Non,
je suis pas d'accord avec le fait qu'on travestisse mon propos comme la balle perdue que se sont pris les gens de Duralex tout à l'heure. J'ai dit qu'en France, on avait un système de santé qui était largement financé par le public. Et qu'ailleurs, ça ne veut pas dire, parce que ça repose principalement sur le privé, qu'on laisse mourir les gens dans le caniveau. Ça veut juste dire qu'il y a un système d'assurance privée beaucoup plus développé que ce que nous avons en France, où n'importe qui va à l'hôpital sera soigné. Ça veut dire qu'on laisse les autres mourir dans le caniveau. Mais vous avez certaines thérapies, si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'êtes pas soigné. En France, si vous n'avez pas de mutuelle, mais que vous avez certains problèmes, vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné.
Notre pays, son système, je l'aime aussi comme vous. Simplement, je pense qu'il faudrait peut-être redire les choses telles qu'elles sont, de manière à ce qu'on puisse réconcilier un peu l'équation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de redistribution sans création de richesse. Donc il n'y a pas de redistribution. Ce n'est pas, je dis Emmanuel Macron parce que c'est lui aujourd'hui, mais ce n'est pas le président de la République, le Premier ministre qui distribue l'argent. L'argent, c'est pas eux qui le créent. Il est créé par la richesse de ceux qui font l'économie, c'est-à-dire les entreprises, les entrepreneurs. Si des gens commençaient par dire, pour qu'on puisse redistribuer, assumons le fait qu'il faut que des gens deviennent riches pour ça, on résoudrait, et que c'est pas grave, on résoudrait une bonne partie du problème. Parce que moi qui suis très attaché à ce système qui est celui de la France, j'ai compris depuis bien longtemps comme vous, qu'effectivement, s'il n'y a pas des gens qui créent des entreprises, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui permettaient de payer beaucoup d'impôts, qui venaient ensuite dans la poche de l'État pour permettre d'avoir un système de santé, un système de protection au sens large tel qu'il est aujourd'hui, ça ne marchait pas. Mais dans notre pays, on a érigé en fait en totem le fait de dire que chez nous, c'est l'État qui distribue l'argent. L'État, il ne crée rien.
Oui, et comme si la redistribution était moteur de prospérité.
Bien sûr,
ça ne crée pas la richesse.
On n'assume pas dans ce pays le fait de dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui réussissent. Ou alors c'est caricaturé quand c'est dit. On le fait peut-être de manière caricaturale quand on le fait. Mais il faut accepter de dire. Et d'ailleurs, pourquoi aux États-Unis, parfois, qui n'est pas forcément le modèle, effectivement, sur un certain nombre de sujets, les choses sont parfois plus faciles à faire passer? Parce qu'il est reconnu aux États-Unis, et c'est fait assez régulièrement, que des Warren Buffett, des Bill Gates et d'autres donnent beaucoup d'argent pour qu'effectivement les systèmes puissent fonctionner. Alors, c'est sans doute que la petite surface émergée de l'iceberg, mais ça suffit pour une partie en tout cas, ou avec sans doute d'autres aspects, à justifier qu'il peut qu'il y ait des gens qui créent de la richesse pour que l'économie fonctionne. En France, on n'est pas capable d'assumer ça. D'ailleurs, voyons le débat qu'il y a eu sur Arnaud et quelques autres, que je trouve assez hallucinant. C'est des gens qui payent quand même beaucoup d'impôts en France. Et
c'est le débat de la justice fiscale, Renan Le Moal, une passion française.
Voilà.
La justice fiscale, il faut le rappeler, c'est un terme qui peut justifier absolument tout et n'importe quoi et qui n'a absolument aucun sens. C'est comme l'intérêt général, c'est un truc qui peut être utilisé pour dire n'importe quoi. J'en profite pour faire une petite précision sur Duralex. Duralex est un scandale absolu. C'est même plus un canard boiteux, c'est un canard mort en réalité. On a mis énormément d'argent public dans un truc dont on savait très bien qu'en fait ça n'a aucune chance. On ferait mieux d'essayer de susciter les industries de demain avec lucidité plutôt que d'essayer de soutenir pour des raisons souvent de communication des trucs qui n'ont aucune chance sur le papier à aucun moment de pouvoir avoir une rentabilité. Il faut avoir un peu plus de lucidité sur les conditions de la concurrence sur nos capacités à avoir un avantage par rapport aux autres. Voilà. Ça fait partie des trucs, quand on regarde sur le papier tout ce qu'on y a mis, ce que la région y a mis, les pauvres actionnaires qui ont été arnaqués, c'est une catastrophe industrielle. C'est
oui, les petits actionnaires, alors on rappelle, Duralex qui est en redressement judiciaire, oui, après avoir fait appel à l'actionnariat de tout un chacun, et on se rend compte que le compte de résultat
public, hein,
fait que...
Il y a plein d'argent public.
Et pas mal d'argent public, et le résultat fait que on voit que ça ne fonctionne toujours pas, malheureusement. Une réponse,
Anaïs,
c'est...
Non, mais je ne veux pas faire de choix industriels. Je dis juste que dire sur un plateau, nous on a Duralex, les Chinois
on
ont des robots...
On n'a pas Dark Factory.
On a, pas, on a des robots humanoïdes.
C'est la vérité, c'est juste, en fait...
Je ne dis pas que ce n'est pas une vérité. C'est juste, faites attention à ce que vous dites, vous vous exprimez publiquement, il y a des gens derrière, et balancer des paroles qui font
Parce que dire
bien,
la vérité, c'est pas toujours mieux.
Ça fait de très beaux tweets, mais vous balancez ça
sans donner le réel ou on est dans le fantasme.
Mais balancez votre petite phrase, n'apporte rien en réel. N'apporte rien en réel, on explique calmement qu'il y a des innovations d'un côté et des industries de l'autre.
Il faudrait continuer en expliquant qu'on ne montrant pas les différences.
Ce que je vous dis, c'est la petite phrase.
Qu'on est en grave. Il ne s'agit pas de petite phrase, il s'agit de décrire.
Ça n'avance pas, ça c'est beaucoup sur le débat économique.
On est là pour dire aux autres qu'on
va terminer. Pas tous ensemble, parce que sinon...
Une dernière chose, c'est facile de dire que la Chine a des usines très modernes. On a 200 ans d'industrie en France, donc on a des sites qui sont forcément moins modernes, ce qui pose plein de questions sur les choix industriels, là où on place l'investissement, etc.
Il y a un saut technologique plus rapide.
Et face à des usines qui ont une vingtaine d'années. Mais moi, je suis... Le monde est complexe, et la petite phrase qui est là pour blesser les autres, je ne crois pas qu'elle serve le débat.
Je ne crois pas qu'il y ait volonté qui se soit de blesser qui que ce soit.
On est sur un plateau, on essaie d'expliquer la réalité. On ne fait pas une thèse de doctorat en 400 pages sur chaque sujet. Donc on est obligé de dire des phrases relativement courtes. Mais je pense que décrire le réel, c'est un peu... Pourquoi ? Si on n'est pas là pour ça, je ne vois pas ce qu'on fait là. On peut tous aller...
Il faut dire ce que l'on voit, comme disait Charles Péguy, est encore plus dur, voir ce que l'on voit. Allez, on continue sur l'industrie, mais au niveau européen, Anaïs, ensemble, si vous le voulez bien, avec cet échec du SCAF annoncé, confirmé, on l'attendait, mais confirmé hier par le président de la République Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Dassault et Airbus n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'avion de chasse européen, qui était un grand projet industriel européen. Ça pose un peu la question de la relation franco-allemande aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore capable de construire des grands mécanos industriel au niveau européen, Anaïs Vaugilis. Je rappelle, grande spécialiste du monde de l'industrie.
C'est amusant que vous le présentiez comme ça, parce qu'en fait, des champions européens, on a eu Airbus, on n'en a pas eu 36 000.
Et oui.
On veut à chaque fois reproduire un champion de quelque chose, on a le champion des batteries, le champion... Et moi, je pense que ça révèle que l'Europe, elle veut sur le papier des champions, avec des additions d'intérêts nationaux, des doctrines militaires différentes, des industriels qui vont chacun défendre leurs compétences critiques. Et donc, tout ça ne se marie pas très bien. Après, la deuxième question, c'est l'amitié franco-allemande, qui est un couple dont on nous rabat les oreilles depuis...
Et qui est une expression qui n'existe qu'en français,
qui n'est pas en allemand. Depuis quelques décennies. À mon avis, c'est une erreur. En fait, on ne construit pas une politique industrielle sur l'amitié. C'est, est-ce qu'on a une politique industrielle européenne qui est portée sur le plan européen, ou est-ce qu'on a des États qui coopèrent ensemble pour construire quelque chose? Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en matière militaire, on se tire la bourre, et que quand on regarde l'état des commandes des différents pays européens, ils se tournent rarement en premier lieu vers la France pour réaliser leurs commandes. Alors, ça pose plein de questions. Ça pose la question d'intérêts géopolitiques et stratégiques à l'égard des États-Unis. Ça pose aussi peut-être parfois la question de ce qu'on fait réellement en termes de produits. C'est bien d'avoir les meilleurs produits, mais si on ne les vend pas, c'était longtemps le cas du Rafale, bien finalement, ça n'est pas pertinent. Et il y a trois choses.
Grande réussite aujourd'hui, le Rafale.
Pendant des années, on n'a pas réussi à le vendre. C'est devenu une grande réussite quand ça n'est peut-être plus le meilleur avion du monde. C'est un avion extrêmement performant, mais combien de décennies a-t-il, d'années avant que ça devienne un succès commercial? Et ça pose aussi la question du rôle du politique là-dedans, sur la capacité à aller chercher des ventes. Et ça m'amène trois constats. C'est que sur le SCAF, un, je pense que l'Europe pose toujours la question de comment on distribue la valeur, comment on répartit les emplois avant d'avoir créé le produit et avant d'avoir la valeur créée. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de souveraineté sans leadership. Penser que le leadership industriel peut être partagé entre les États est, à mon avis, une erreur. Il faut qu'il y ait une tête de pont, que ce soit un État, une industrie, et que derrière, il y a une filière. Hein, c'est ce qui se passe dans toutes les filières, d'une certaine manière. Et la troisième chose, qu'il y a une question de profondeur industrielle en Europe, c'est-à-dire que en matière de défense, on est mieux doté que dans d'autres secteurs, mais on veut faire les choses, et en même temps, on n'assume pas forcément toutes les compétences qu'il y a derrière. Et dernier point, sur l'Industrial Accelerator Act, je pense que c'est insuffisant.
Le texte européen présenté et porté par le commissaire français Stéphane Séjourné pour faire face notamment aux surcapacités chinoises. Profondeur industrielle, dit Anaïs Voigelis, profondeur financière aussi, Ronan Lemoine.
Contextualiser ça par rapport à ce qui se passe autour de nous. C'est toujours intéressant parce que ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est que les Américains ont décidé qu'ils ne seraient plus le parapluie de l'Europe. Ils nous l'ont dit, ils l'ont fait savoir, et d'ailleurs ils agissent en conséquence. Bon, les Chinois, je ne vais pas y revenir, on voit tout ce qui se passe. Et encore une fois, je ne suis pas un défaitiste, on s'en fout, mais quand on voit les Chinois, c'est une tête qui décide et on fait.
Et, oui.
Et c'est un plan à 10 ans, ou à 20 ans, ou à 50 ans. Et d'ailleurs, c'est quand on les bouscule, ils ne bougent pas, parce que de toute façon...
C'est la force des autocraties.
Tant que vous voulez, nous on avance. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une fois qu'on a contextualisé ça, le fait effectivement qu'il y ait des atermoiements ensuite au niveau européen sur des sujets qui peuvent être considérés comme stratégiques, c'est par définition très dangereux, parce que ça veut dire que dans le même temps où on a des gens qui, eux, avancent d'un seul homme avec des idées très claires sur là où ils vont, nous, on n'est pas capable de se mettre d'accord. Donc moi, pour moi, c'est un vrai sujet, effectivement. Alors, je pense que ça peut être leadership, mais de gouvernance.
Oui.
Je pense qu'on atteint les limites sur certains sujets. Je ne suis pas un expert en la matière, mais de la gouvernance européenne, alors pas à 27, mais souvent à 27.
C'est ce que dit Mario Draghi.
Et sur d'autres sujets. Et je pense qu'il est temps, peut-être, de revenir à des sujets à géométrie variable. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se mettre d'accord à 27, c'est dans bien des cas sur les sujets, revenons à des plus petits comités, c'est qu'on le fait. Si à la fin, on n'est pas capable de se mettre d'accord à deux, bah faisons nous-mêmes le sujet sur lequel on pense qu'il faut atteindre une certaine forme de leadership au niveau européen ou international. Parce que sinon, on va prendre du retard, ou alors...
Oui, on le prend déjà.
Ça, ou alors, ayons une Europe... qui soit une Europe fédérale. J'ai pas dit que je voulais ça, mais soit on veut une Europe fédérale, et dans ce cas-là, il y aura une seule tête, entre guillemets, on avancera. On a vu les quelques sorties qui ont pu être faites par certains ou certaines sur le sujet et les réactions que ça pouvait susciter, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait mûr pour y aller. Mais si ce n'est pas le cas, et moi je peux le comprendre, dans ce cas-là, ayons des sujets qui soient traités à géométrie variable. Et quand un leadership européen, même à deux, n'est pas capable d'être identifié, traçons un sillon sur celui qui est capable d'avancer dans la voie qu'il pense la plus pertinente.
C'est ce que propose Mario Draghi, avec son fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas à 27, mettons-nous à 6, 7, 8, 9, et puis avançons, Olivier Babot.
Oui, c'est emblématique des problèmes de l'Europe. En stratégie, on dit le risque, c'est d'être stuck in the middle. On n'est ni haut de gamme, ni bas de gamme. On est entre deux choix stratégiques. C'est un peu le problème de l'Europe. Soit il aurait fallu aller vers un vrai fédéralisme qui permet d'avancer, d'avoir un numéro de téléphone et puis de prendre des décisions. Mais ça veut dire d'abdiquer beaucoup et faire des pays, des grandes régions. Soit on gardait une forme, évidemment, de souveraineté nationale beaucoup plus forte. Là, on est un peu entre les deux, ce qui alimente un mécontentement.
Une union d'États-nations. Disait Jacques Delors.
Voilà, c'est censé nous apporter la puissance, on l'a pas. Censé nous protéger économiquement, politiquement, l'immigration, on connaît le sujet aussi, etc. Et la défense, ça cristallise ça encore plus parce que c'est extrêmement difficile en réalité. L'idée d'une politique commune de défense est un fantasme depuis très longtemps, mais ça ne peut pas aller. C'est-à-dire que l'idée que l'Élysée doit dépendre d'une décision de quelqu'un aux Pays-Bas ou en Allemagne pour avoir le droit d'envoyer des gens où il veut, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt à accepter, tout simplement. Sur le côté industriel, on sait qu'effectivement il y a le problème des concurrences et que quand on a des formes d'alliances, ces alliances toujours entre concurrents, donc c'est à qui se tire la bourre, entre qui va être celui qui va capter la valeur, qui va en prendre le plus. Ça a marché avec Airbus, mais c'est très difficile à répliquer. Et puis peut-être la dernière chose à dire, c'est qu'il y a peut-être une toute petite lueur d'espoir, c'est que le SCAF, c'est un avion embarqué avec un humain à l'intérieur. Je ne connais pas tellement en défense, mais moi j'ai l'impression que de plus en plus, c'est quand même pas l'avenir de mettre un humain qui est hyper rare, qui peut se faire exploser en deux secondes. C'est extrêmement cher. L'avenir, c'est les drones. Et j'ai l'impression que le projet d'Eurodrone, même si c'est peut-être ce qui est dit, mais pas qui est pensée, est encore dans les tuyaux. Donc l'idée qu'on puisse construire des drones ensemble est encore quelque chose qui est envisageable. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'évolution l'évolution de la défense? C'est compliqué en ce moment technologiquement, évidemment.
Au-delà des sujets de défense qui, évidemment, touchent au régalien profond des États, est-ce qu'on constate en Europe, quand même, sur d'autres secteurs, l'émergence de champions européens? Est-ce que ces fusions transfrontalières, dans le monde de la finance, on en parle beaucoup, UniCredit, Commerzbank... pour ne parler que du dernier dossier, où est-ce qu'on a vraiment du mal parce qu'on a 27 marchés très fragmentés, Anaïs Vagilis?
On a du mal. On a des groupes nationaux, alors qui sont nationaux, mais avec un capital extrêmement diversifié, mais qui finalement ne... Certains arrivent à l'échelle européenne, mais en général, quand ils arrivent à l'échelle européenne, ce sont des groupes à échelle mondiale. On a eu quelques fusions, avec Luxottica, qui dans le domaine
Essilor Luxottica,
qui peut être un exemple. On peut donner l'exemple d'Airbus, mais je crois que là où il faut faire une différence, c'est en fait quand est-ce qu'il y a l'initiative privée qui va porter une fusion, et encore faut-il qu'elle soit acceptée par le droit.
Puis les différentes autorités nationales.
On a échoué sur Alstom Siemens, par exemple. Donc quand l'initiative privée le porte, je pense qu'on peut aboutir des choses. Je pense pas que ce soit la capacité des États pour des questions de souveraineté, de rapport des forces et autres, de construire ces champions européens. Ils peuvent créer les conditions d'émergence, mais c'est pas...
C'est aux entreprises de le faire. On l'a vu dans le monde de la finance, Renaud Lemoyle.
Oui, on a vu
la crise financière, BNP Paribas.
Après, le monde de la finance, c'est un peu différent parce que je pense qu'il y a deux sujets qui font que c'est compliqué. Il y a le sujet de la souveraineté, effectivement. C'est quand un champion européen émerge, ça veut dire que, quoi qu'on en dise, quelques-uns perdent de la souveraineté sans le dire, mais parce que c'est plus eux qui ont le leadership. Et puis un deuxième sujet, c'est les flux, les capitaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on gagne au niveau européen, en tout cas, quand dans un secteur on gagne, on peut perdre dans un autre. Alors c'est vraiment arrêt dans le côté service financier, parce que service financier, quelque part, c'est quelque chose où les capitaux circulent beaucoup plus librement, il n'y a pas d'interférence. Mais par exemple, dans l'agriculture, on a vu sur les grands sujets agricoles récents, quand il y en a un qui gagne sur le secteur automobile avec des accords avec l'Amérique du Sud, l'autre va perdre sur le secteur agricole. Donc en fait, c'est pas les vases communicantes dans le même pays. Donc ça pose des vrais problèmes. Et l'émergence d'un champion européen pose aussi ce genre de considérations. Encore une fois, c'est moins vrai dans le secteur financier, parce que la liberté de circulation des capitaux est telle que c'est moins évident sans doute.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Anaïs Vagilis, Ronan Lemoyle et Olivier Babeau, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de diffusion. Tout de suite,